thématique qui nous intéresse vraiment particulièrement, que le domaine de la santé, le domaine du développement personnel. Et nous allons essayer de défricher un terrain parfois un peu miné, en tout cas qui... Moi, je suis kinésithérapeute, donc nous sommes sollicités pratiquement tous les 15 jours par des nouvelles thérapies qui nous sont proposées, des formations. Et il s'agit d'essayer de faire un peu de ménage et de voir selon deux critères. Donc tout ce que je vous dirai, j'essaierai de m'appuyer sur deux critères. Un critère selon la foi, je suis diacre permanent, et un critère aussi selon la raison. Voilà. Donc c'est sur cette base de la foi et de la raison que nous allons essayer de tenir sur ces deux piliers, sur ces deux jambes. Je voudrais peut-être, pour introduire les quatre causeries que je vais faire, resituer le contexte et le fondement, d'essayer de voir dans la Genèse ce que nous dit la Genèse par rapport à la création. Parce que c'est très important de savoir sur quoi nous nous reposons. Or, la Genèse commence par « dans un commencement ». Au commencement. En hébreu, ça se dit Bereshit. Et les premiers mots de la Genèse nous disent dès le départ que dans un commencement, Dieu crée. Donc la création est l'œuvre de Dieu. Et Dieu va créer avec sa parole. C'est important de dire cela parce que dans toutes les thérapies énergétiques, nous sommes dans une perspective moniste où il n'y a pas de Dieu créateur et où il s'agit de rejoindre l'esprit cosmique ou l'énergie première. Donc nous n'avons pas le même fondement et le même regard sur l'homme, sur la création et bien entendu sur Dieu. Bereshit, le premier mot de la Genèse en hébreu commence par la lettre Bet. Et la lettre Bet, comme vous le savez, c'est la lettre de la maison. Ça représente une maison. On connaît Bethléem, la maison du pain. On connaît aussi Bethanie. Bethanie, c'est la maison de celui qui est courbé, celui qui porte le poids de l'existence. Bethanie, c'est la maison, par extension aussi, du pauvre. Je dis tout cela parce que dans la Genèse et dans la Bible, eh bien, les mots signifient souvent quelque chose qui est relatif à notre corps. Et peut-être que nous avons oublié un peu cet enracinement de cette langue sémitique qu'est l'hébreu, qui nous parle de choses extrêmement concrètes et extrêmement incarnées. J'y reviendrai. Bereshit bara Elohim. Dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et quand nous disons le credo, on dit: je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, nous sommes déjà référents à un créateur et sauveur en Jésus-Christ. Et l'objectif de la Bible, l'objectif même, il faut savoir vers quoi nous tendons, qu'est-ce qui nous meut, vers quoi nous nous orientons. Les rabbins juifs qui ont l'art parfois des raccourcis nous disent que la Bible est le résumé de l'histoire de l'humanité. Mais si on n'en a pas le temps de lire toute la Bible, on peut lire les 150 psaumes. 150 psaumes qui sont le résumé de la Bible. Si on n'a pas le temps de lire les 150 psaumes, on peut lire le premier psaume. Et le premier psaume est le résumé des 150 psaumes résumés de la Bible. Et si on n'a toujours pas le temps, eh bien, on peut lire le premier mot du premier psaume qui nous dit l'orientation de cette parole de Dieu. Ce mot en hébreu, c'est « Asheré ». Et « Asheré » veut dire « heureux ». L'objectif même de cette parole de Dieu est de nous rendre heureux. Mais pas dans un bonheur instantané, immédiat. Pas un bonheur que l'on saisit dans une gourmandise de nos sens, un bonheur pour la vie éternelle. Voilà l'objectif, c'est d'être heureux pour toujours. Et Jésus lui-même, dans ses premiers enseignements sur les béatitudes, hein, la première catéchèse de Jésus, il commence par heureux, heureux, acheré. Acheré, en hébreu, nous dit un dynamisme. Il ne s'agit pas d'être heureux passivement, il s'agit de rentrer dans un dynamisme de vie. Et nous pouvons être heureux quand nous connaissons l'objectif. L'objectif est Dieu, un Dieu qui nous veut du bien, un Dieu qui est Père, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui veut faire de nous des fils et des filles bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons besoin, plus que jamais peut-être, de sentir cet amour. Nous avons besoin de ressentir l'amour de Dieu, l'amour des frères, aimer et être aimé. C'est important de resituer cette dynamique positive. Et quand Dieu voit le monde qu'il crée, il le voit beau. Et quand Jésus voit les premiers disciples sur le bord du lac de Galilée, il le voit aussi, Simon, André, Jacques et Jean. Quand Jésus voit, il voit la beauté qui est en nous. Nous devons nous ressaisir de cette beauté du regard de Dieu et de la beauté quand nous sommes attentifs à sa parole qui nous renvoie à la beauté de Dieu, la beauté du frère, la beauté de la création. Mais dans cette histoire, vous le savez, vient s'insinuer un animal. Et cet animal, je voudrais en parler un petit peu parce que ça va nous donner toutes les clés des sciences occultes, de la médiumnité et de tout ce qui se passe aujourd'hui sournoisement dans les nouvelles thérapies, parfois. Cet animal, vous le connaissez, c'est le serpent. Et le serpent arrive au chapitre 3 de la Genèse. Il arrive sournoisement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Alors vous savez, je suis kinésithérapeute et je me suis intéressé à la physiologie du serpent. C'est intéressant de savoir la physiologie du serpent. Et vous allez voir les clés de lecture que nous donne sa physiologie. Un serpent, les plus frustes parmi les serpents ne peuvent que ramper. Hein ? Il y a des serpents plus élaborés qui peuvent lever la tête, mais les plus frustes ne font que ramper. Et un serpent va ramper jusqu'à trouver tous les interstices voulus. Il a une intelligence des formes absolument incroyable. Et il ne voit le monde que dans son horizontalité. Il n'a aucune perspective pour lever le regard. Donc vous voyez déjà le serpent qui va connaître toutes les infractuosités de notre monde sans pouvoir lever le regard, sans pouvoir avoir la moindre transcendance, sans pouvoir accueillir ni accepter qu'une parole a créé ce monde, la parole de Dieu. D'autant plus que le serpent n'a pas d'oreille. Un serpent n'a pas d'oreille. Il n'a pas cet outil de l'oreille qui permet l'écoute. Et l'écoute, c'est ce qui permet aussi l'altérité, la différenciation. Le bébé, dans le ventre de sa maman, a un premier sens qui peut lui donner déjà, qui lui fait goûter à un monde qui lui est extérieur. Il entend la voix de sa maman, de son entourage, on sait que l'enfant reconnaît la musique. Le serpent n'a pas d'oreille. Il ne peut pas écouter de paroles qui différencient les choses. Le serpent va connaître le monde de manière vibratoire. C'est-à-dire qu'il va sentir les vibrations. Et ça nous dit déjà une clé de beaucoup de techniques médiumniques qui vont aussi être de cette nature vibratoire, sans altérité, dans une fusion, confusion et sans distanciation. Je suis clair ? Le serpent ne peut pas reculer. Un serpent qui a mis la tête quelque part, il y passe tout en entier. Il ne peut pas faire marche arrière. Un serpent ne fait pas marche arrière. Un serpent est incapable de conversion. Il ne peut pas se tromper. Vous voyez ? Il ne peut pas faire amende honorable d'une certaine manière. Il ne peut pas reculer. Il est toujours dans cette perspective de l'avancée. D'autre part, son horizontalité ne lui permet pas à aucun moment de lever le regard. Si vous traversez la Bible, vous verrez cette expression « ayant levé le regard ». Et quand Abraham est prêt de sacrifier son fils Isaac sur la montagne, ayant levé le regard, il a vu le bélier. Vous voyez ? Et ça va, cette expression traverse la Bible jusqu'aux femmes, le premier jour de la semaine, ayant levé le regard, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Lever le regard, c'est précisément être attentif à un autre monde que l'univers du créé. Le serpent a d'autres attributs. Il n'a pas de paupières. Il a l'œil toujours ouvert. Il est perpétuellement en éveil. Il voit tout. Il ressent tout de manière vibratoire. Il est en permanence en connexion avec l'univers du créé et en déconnexion totale avec le Créateur. Il y a d'autres attributs du serpent, hein, aussi. Un serpent, quand il a des œufs, hein, il a des œufs et des petits serpents, il se moque complètement de la progéniture. Les serpents n'élèvent pas leurs petits. Chaque génération est d'une certaine manière, au niveau de l'éducation, une génération spontanée. Chacun doit faire son expérience. Dans beaucoup de techniques du Nouvel Âge, beaucoup de techniques énergétiques, on dit, expérimente. Toi-même, fais ton expérience. On ne se recommande pas d'une filiation, finalement, d'un enseignement qui nous est transmis. C'est ça qui nous rend fils et filles. C'est parce que nous faisons confiance aux générations qui nous ont précédés. C'est parce que nous faisons confiance en Jésus, Fils de Dieu, qui lui-même a fait confiance à Dieu, le Père. Le serpent, chaque génération est une génération qui, d'une certaine manière, s'auto-éduque. Voilà quelques points. Alors, il nous est dit que le serpent est le plus rusé de tous les animaux de la création. Parfois, il est dit aussi le plus nu. Le plus nu. Regardez aujourd'hui notre monde. Notre monde est tenté par la nudité. Quand on voit Internet, on ne voit que la nudité des choses. Quand on regarde, quand on rentre dans ce regard du serpent, on rentre dans cette nudité qui nous fait faire de l'autre l'objet à consommer, à saisir, en oubliant sa filiation divine, la gloire de Dieu qui habite en lui. Vous voyez tous ces petits attributs. Et puis le serpent, vous savez de quoi il se nourrit ? C'est dit, hein, dans la fin du chapitre, il va se nourrir de la poussière du sol. C'est-à-dire qu'il ne peut se nourrir que de la matière du monde. Si nous sommes chrétiens, nous appartenons à une filiation. Nous nous nourrissons du pain, mais nous nous nourrissons aussi de la parole de Dieu. Je le dis parce que, aujourd'hui, le serpent est montré comme l'élément suprême de l'initiation. Ce serpent est devenu le dragon, et nous verrons ça quand nous aborderons ce qui est donné en nourriture à nos jeunes. Quand nous voyons le film Eragon, nous voyons un jeune qui va avoir un œuf de dragon, et cette dragon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il va progressivement grandir avec elle, il va être initié par un vieux dragonnier, et il va rentrer en fusion, en transmission de pensée, en acte de guérison vis-à-vis de sa dragonne. Vous voyez ? L'antique serpent est devenu le dragon de l'Apocalypse. Et le dragon est aussi un serpent élaboré parce qu'il est capable de maîtriser la terre, l'air, l'eau et crache le feu. Les quatre éléments de l'initiation. On va retrouver ça dans beaucoup de techniques initiatiques de sciences énergétiques. Donc, maîtriser le serpent, maîtriser le dragon, c'est maîtriser finalement tous les éléments de la Terre. Aujourd'hui, il y a une véritable recrudescence du néo-chamanisme. Il y a des charters entiers qui vont faire des initiations chamaniques au Pérou, qui vont se prendre de l'ayahuasca, c'est-à-dire une substance dite entéogène. On mange cette plante, c'est dégueulasse, c'est une bouillie infâme, il y en a qui tombent malades avec ce truc-là. Entéogène, ça veut dire capable de générer Dieu en soi, voilà. Donc vous voyez, et avec ça, on va rentrer dans l'aigle, dans les animaux de la terre, du ciel et de l'eau, et on va s'assimiler de cette manière-là à une maîtrise que l'on croit avoir des éléments. Beaucoup de techniques énergétiques nous font rentrer dans cette perspective-là en oubliant le Créateur et le Sauveur. Alors voilà ce que dit Oswald Wirth, 33e degré de la franc-maçonnerie, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'imposition des mains. C'est une initiation au magnétisme. Voilà ce que dit Oswald Wirth, 33e degré, encore référent dans les milieux maçonniques qui travaillent sur la dynamique de l'occultisme. Aux initiés. Le serpent séducteur qui incite à mordre au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise un instinct particulier, non plus celui de la conservation, mais une impulsion à la fois plus noble et plus subtile dont le propre est de faire éprouver à l'individu le besoin de s'élever dans l'échelle des êtres. Le serpent, élément d'initiation. Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les progrès, de toutes les conquêtes qui étendent la sphère d'action des individus aussi bien que des collectivités. Cela explique pourquoi le serpent, inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte, fut maudit par les anciens théocrates, c'est-à-dire les tenants des églises, les tenants aussi des religions, enfin, en tout cas du judaïsme, et ensuite du christianisme, alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers un certain nombre de méthodes de santé, de développement personnel, d'initiation dans le monde des jeunes, nous rentrons dans cette perspective initiatique. Et nous parlerons aussi de Harry Potter, dont on ne voit que la surface exotérique sans pénétrer dans la profondeur ésotérique qui nous ramène à ces techniques d'initiation issues de ces sociétés secrètes. Il faut être très clair là-dessus. Nous sommes très naïfs, très naïfs. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes là, le combat est dressé. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut choisir son camp. Hein. Et il faut que notre oui soit oui, oui, que notre non soit non, le reste venant du mauvais. Je parle de ça parce que, si vous voulez, c'est important. Hein, je vais aborder la question de l'ostéopathie, de la kinésiologie, de la sophrologie. Mais c'est important que nous ayons bien posé, clairement, les fondements pour savoir de quel bois nous nous chauffons, hein, et vers où nous voulons nous orienter. Est-ce que nous voulons rentrer dans une perspective initiatique qui nous permet de jouir au maximum de ce monde, ou est-ce que nous accueillons une parole qui nous dit un au-delà et aussi la profondeur de notre cœur. Lech lecha, en hébreu, veut dire « va vers au loin et va vers toi-même ». C'est la parole qu'Abraham a entendue quand il était à Ur, en Chaldée, au milieu précisément de toutes ces grigritologies-là et au niveau de toutes ces initiations païennes-là. « Va au loin et va vers toi-même ». Et nous allons essayer progressivement de suivre ce chemin.